Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h04, ravi de vous accueillir pour un nouveau Team du Gage jusqu'à 20h sur RMC. Nous allons parler et débattre football avec Jean-Louis Tour qui est bien là.
Bien sûr, je suis là.
Mon Jean-Louis, ça va mon poulet?
Surtout en os plus qu'en chair.
Surtout en os, oui, surtout en ce moment.
Oui.
3, toujours 3, pas plus?
3, c'est bien déjà, attends.
C'est pas mal.
3 en 5 semaines.
Oui, c'est ça le problème. 3 en 5 semaines, c'est que tu dois quand même y aller.
Attends, en même temps, c'est
va à ton rythme. Oui, oui, va à ton rythme.
Merci.
C'est bientôt les vacances sur la plage et tout. Tu vas être.
Oui, ça
va être,
t'as raison.
Ça va être impressionnant. Jérôme Rotin est avec nous également. Bonsoir, Jérôme.
Salut, Dugas. Salut à tous.
Ça va, mon poulet?
Ouais, en forme.
Bon,
pleine forme.
Mon Jean-Louis, un gros programme.
Ah oui, gros programme. Ah oui, effectivement. Ah, oui. Puisqu'il y a 19h.
Du divertissement.
Ah, on va faire un peu de divertissement dans un instant, effectivement. Ouais. Bon, on en fait tous les soirs, nous, du divertissement.
C'est pas faux.
On fait plus de divertissement que de l'analyse de foot.
Ça va nous changer de l'expertise, je te
voilà.
Pas.
On va continuer notre débrief de France-Allemagne 82, puisqu'on n'a pas fini hier. On n'a pas notamment abordé les conséquences de Séville 82 sur le foot français. En quoi ce drame a contribué aux succès qui arriveront derrière. On reviendra aussi sur le France-Allemagne 86.
Il y a une incidence.
Ah bah écoute, on verra.
Bah oui,
on en parlera.
Bah, je vais écouter, je vais être tout oui.
Et bah peut-être, tu vois, le côté équipe de France romantique qui ne gagne pas à la fin, peut-être que les mentalités vont changer et l'importance du résultat plus que la manière, etc. On en parlera tout à l'heure à 19h.
Ok, super.
Et puis, on va aussi vous donner des infos RMC Sport à 18h30, puisque la guerre est peut-être déclarée entre le PSG et le Bayern, après le dossier Kouassi.
La guerre footballistique, bien sûr, mon Jean-Louis.
Là, bien entendu, à l'échelle du foot.
Mais oui.
Et puis, on va débattre donc dans un instant sur le supposé manque de culture foot en France. Ce sera dans un instant. Mais d'abord, les infos de la journée, c'est donc l'UEFA qui a officialisé les dates de la fin de la Ligue des Champions au mois d'août. On va détailler tout ça avec Mohamed Bouafsi qui nous rejoint. Salut Mohamed.
Salut Dugas, salut Jérôme, salut,
salut
Jean-Louis.
Mohamed.
Alors déjà, on peut donner les dates.
Oui, les dates, on les avait données dans Team Duya il y a quelques jours. Ce Final 8, c'était la tendance. Je me souviens même que Jérôme en avait parlé il y a plusieurs semaines de cette idée qui était de faire un Final 8 durant le confinement. Ça a été confirmé.
Jérôme, il a les instances en direct, bien sûr.
Il parle directement à l'UEFA, oui. je le sais. Par Alexander Seferin.
Ma voix compte. Oui, ma voix compte déjà en France, imagine au niveau européen.
C'est pour ça que l'année prochaine, vous allez recruter un bon remplaçant. Vraiment, c'est un bon remplaçant qui pourra rentrer à tout moment.
Tu vois, moi, je suis gentil, je fais une passe décisive et toi, tu essayes de créer des problèmes. Je fais une belle passe décisive et toi tu crées des problèmes, tu me chauffes. Et là je le vois, il a changé, il a kiffé quand je lui ai fait la passe décisive et là il est énervé.
Oh non,
pas possible.
Bon, moi,
et donc en gros.
Non, les chambreurs acceptent de se faire chambrer.
Ouais, exactement. C'est ça.
Voilà.
Mais les chambreurs ont beaucoup de susceptibilité aussi parfois.
Qui est Christophe Huguet, il peut dire ça, c'est un retraité. <ouais.
rire> Oui, c'est un peu son jubilé là, tu as raison.
Ce dans vieux trois points qui se prend, celui-là.
Donc ce Final 8 a été confirmé avec ces fameuses dates du 12 au 23 août. Ce Final 8 qui aura lieu à Lisbonne. Match des quarts de finale, demi-finale en un match seulement, pas de confrontation aller-retour. Et il y a toujours cette réflexion du gars sur les huitièmes de finale, où vont avoir lieu les huitièmes de finale. Il y a une réflexion autour de l'équité. Est-ce que les matchs retour doivent avoir lieu dans les villes qui devaient accueillir? On pense notamment à la Juventus Turin qui devait accueillir l'Olympique Lyonnais. L'idée au départ, c'était de jouer ces matchs à Lisbonne, comme ce fameux Final 8, mais on connaît la force, l'expérience, le lobbying de certains clubs comme la Juventus qui ont des rôles assez importants, la direction de la Juve dans l'UEFA, et donc il y a une volonté claire d'accueillir ce match retour, et d'ailleurs c'est plutôt assez justifié, ça serait logique d'accueillir ces matchs dans les villes respectives, et les matchs qui vont avoir lieu le 7 et 8 pour OL Juve, et tous les matchs qui auront lieu le 12, 13, 14, 15 pour les quarts de finale, le 18 et le 19 pour les demi-finales, et le 23 août, la finale de la Champions League, un dimanche à 21h. Finale de la Ligue Europa, le 21 août à 21h.
Et le tirage, c'est quand, hein?
Alors, il y a une réflexion aussi sur le tirage, c'est de faire un tirage intégral avant que les matchs aient lieu. Et il y a aussi une deuxième volonté. Avant que les huitièmes aient lieu.
C'est important quand même.
Oui, bien sûr, c'est très important.
Imagine, je te coupe, mais imagine Lyon et Paris. Lyon se qualifie, Paris aussi, sachant qu'ils n'auront quasiment pas joué depuis 3 mois et demi, 4 mois. S'ils jouent le 15 et qu'ils se qualifient, imagine, pour ils n'ont que 3 ou 4 jours de repos. Quoi.
Pour la demi, le 19.
Et ce n'est pas la même chose que si tu joues le 12. Hein.
Oui, bien sûr.
Ah oui, d'accord, oui.
Oui, oui, sur le tirage, sur les dates du tirage, tu as raison. Mais en revanche,
ce que je voulais dire aussi, la nouveauté avec les années précédentes, c'est que quand tu disputeras ton huitième, tu connaîtras ton adversaire en quart.
Ah oui, oui.
Sur les huitièmes qui restent.
Oui, c'est ça. Nouveauté. Et ça, le tirage intégral, soit il aura lieu avant les huitièmes de finale retour, soit le 10 juillet. Donc, entre...
Non, c'est avant quoi qu'il arrive.
Oui, c'est avant quoi qu'il arrive. Le tirage, oui, c'est ça que je voulais dire. Le tirage intégral aura lieu quoi qu'il arrive avant les matchs retour. On fera pas un tirage au sort le 10 août, pardon. C'est ça que je voulais dire, le 10 août, pour savoir quelle équipe va affronter l'autre équipe en quart.
Est-ce que l'UEFA s'est exprimé sur la constitution des effectifs pour ce mois d'août? Est-ce qu'on va pouvoir rajouter des joueurs parce qu'il y a, je sais pas, des fins de contrat, des recrues?
Alors non, on ne pourra pas ajouter de joueurs recrutés durant les mois de juin, juillet, pour disputer cette Champions League en août. On reste avec les mêmes équipes. En revanche, on autorise les nouveaux joueurs à entrer dans la liste qui sont dans le club.
Oh.
En clair, oui. Ça veut dire, par exemple, je donne un exemple, Lucas Touzard quitte l'Olympique Lyonnais. Il va rejoindre le RK Berlin. Il ne pourra pas jouer avec l'Olympique Lyonnais. L'UEFA autorise l'Olympique Lyonnais à ajouter un joueur dans cette fameuse liste.
D'accord. Donc, si dans l'effectif, il y en a un qui n'a pas été ajouté
jeune,
avant...
Voilà, il y a un jeune qui ne comptait pas, eh bien, on a le droit de le faire entrer dans cette liste.
Par exemple, Choupo-Moting.
Oui.
Un jeune, pas une recrue.
Non, pas une recrue, dès le départ. En gros,
Choupo-Moting, qui n'était pas dans la liste,
oui.
S'il est prolongé de...
Il n'est pas prolongé.
Oui, mais il ne sera pas prolongé, Choupo-Moting.
Ah bon, il n'est pas prolongé. Ouais. Bon.
Bah, oui,
non,
mais là, si le mec était prolongé et pas dans la liste...
Les primes depuis, on va rappeler ça.
Oui. Bon, en tout cas, là, ça serait possible de l'ajouter. Bon, très bien. Duga, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'elle t'excite, cette fin de Ligue des Champions?
Oh, bah oui. Oui, bien sûr que j'ai hâte de retrouver cette compétition. Voilà. Après, je regardais, ça fait quoi, une dizaine de matchs. Maintenant que je regarde sans public, c'est quand même malgré tout assez compliqué, embêtant. Mais écoute, faut finir cette saison. Faut décerner les titres, faut décerner les trophées. Donc voilà, c'est la moins mauvaise solution de faire ça. Donc oui, je suis quand même malgré tout content. J'ai hâte de voir le PSG surtout et puis l'Olympique Lyonnais, bien sûr.
Oui, après, le huis clos, c'est encore en suspens. Est-ce qu'il y aura du public ou pas?
Au pire, tu auras 5 000, c'est ça, non?
Oui, en fait, on aura plus que 5 000.
Plus que ça.
En tout cas, dans les stades portugais. Il va falloir aussi suivre l'évolution de la crise du coronavirus, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais on voit que ça repart au Portugal, on voit que ça repart en Chine. Donc, l'UEFA reste quand même assez prudent sur toutes les questions de supporters, puisqu'il ne faut pas quand même entraîner des annonces qui ne pourraient pas forcément avoir lieu en août. T'imagines, du gars, Jérôme, si on disait aux supporters, bah, si vous pouvez revenir en août, c'est acté, et que la crise repart au Portugal, ben non, on ne jouera pas les matchs avec des supporters. Mais l'UEFA est quand même très optimiste sur l'idée d'avoir des supporters dans le stade, et la réflexion se portera sur des supporters des deux camps.
D'ailleurs. Jérôme, tu es impatient aussi? Ou tu te dis, bon, c'est quand même pas la même chose?
Non, je suis champion. J'étais déçu au départ. C'est vrai qu'il y avait plusieurs possibilités. Déçu parce que c'est vrai que, et Mohamed a bien raison de le rappeler, rien n'est encore gagné avec la crise sanitaire, même si ça va mieux, et qu'aujourd'hui, vu que ça va mieux et que tous les autres championnats ont repris, je me dis qu'au bout d'un moment, oui, c'est bien de remettre des gens dans le stade. Donc avec des gens dans le stade, ça donne autre chose quand même comme compétition, et quand tu vois le format, c'est excitant. Je m'attendais à ce qu'ils fassent un petit peu mieux. C'est vrai que en termes de... Moi, je m'attendais plutôt à un Feyenoord fort plutôt que 8, mais bon, aujourd'hui, ils ont décidé ça, il faut y aller.
Fort, en anglais, Jérôme, c'est combien? Fort, c'est Feyenoord. 4, d'accord. Et 8?
8? Ben, ouais. Quoi, 8? Non,
c'est pour
8.
Nos auditeurs. Non, c'est pour nos auditeurs qui parlent pas anglais.
Ah oui, excuse-moi.
Oui, vous êtes aussi bon l'un que l'autre en anglais. Mais non, mais tu vas pas trop aller le chercher non plus.
Mais non, mais quand t'es bilingue, c'est vrai que c'est pas facile. Toi, tu te confonds.
Moi, je suis trilingue, moi.
Oui, espagnol, évidemment.
Non, avec les conneries que je dis.
C'est une langue apparente.
C'est un langage.
Bon, très bien. On en reste là pour les infos. Vous les avez toutes sur rmcsport.fr pour la reprise de la Ligue des Champions. Tout de suite, messieurs, on pensait qu'il y avait des stars au PSG, notamment Neymar, Mbappé. Mais la vraie star, c'est le Perfour.
Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort-Boyard.
Vous êtes devant la première épreuve, vous avez l'air d'une équipe dynamique.
Oui, tu francs, tu francs.
T'as quoi, ça va?
Allez, francs, allez.
Bonjour et bienvenue, Mico.
Eric, Mico.
Celle dont on est le plus fier, c'est celle que l'on a remportée. Qui est elle?
La coupe.
Qui c'est le king?
Dans le temps de la clepsydre, je veux sectionner une corde avec une épée.
Allez, allez.
Allez, la clé se trouve au bout.
Allez, reviens.
Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
Voilà, petit extrait de certains anciens joueurs de foot, hein, passés par Fort Boyard. Il y a eu Edil Rami, il y a eu notre Dream Team aussi, Eric Dimeco, Franck Leboeuf, voilà.
Ouais, Eric, avant qu'il soit en chaise roulante, il l'a fait.
Ouais. Il allait faire le perfoura, Eric.
Ouais, il paraît que Franck, il a failli se perdre.
Franck, il a failli être embauché après. Non, Fort Boyard.
Ah ouais. Ils auraient pu garder Eric, par contre, ça aurait été bien ça.
Et toi, tu l'as jamais fait, du gars?
On m'a proposé, mais non, ça m'intéresse.
Dans tes enfants, ils ont jamais insisté en disant allez, non, mais, fais-le, etc.
Non, trop de travail.
Trop de travail.
Non, mais sincèrement, c'est pas un jeu qui me plaît tant que ça. Et puis, il paraît que t'enregistres pendant 4-5 heures, il fait hyper froid dans l'humidité, dans le truc là-bas et tout.
Non, maintenant, tu dors là-bas, du gars.
En plus, ouais.
Ah, qu'en oui, bon, plus, voilà. D'accord, ouais, ok, très bien.
Bon, c'est mort. Okay.
Ouais, voilà, t'as la réponse.
Oublié du gars. Jérôme, tu serais chaud?
Non, mais moi aussi, on m'a proposé. Alors, au départ, c'était pas facile le calendrier. Après, aujourd'hui, il y avait quelque chose qui pouvait se monter avec l'after.
Ouais.
Donc on en parle.
Vous allez le faire ?
On verra. Ouais, je sais. Écoute, il faut déjà que tout le monde soit OK. Et
vous êtes pas. Ils refont les anonymes, non? C'est connu quand même.
Non, mais moi.
Non, mais les mecs de l'after qui va regarder les mecs de l'after. C'est
en fait, le truc, c'est que si moi je le fais. Si moi je le fais, ça marche.
Vous voyez,
si
ça va, mais la ganache de Gilbert et tout ça, de Daniel et tout. Non, mais ça rend compte.
Moi je regarderai.
Polo Breitner, il va faire comment, Polo Breitner, pour passer les portes? Et Fred Hermel,
eux, on est tranquille, ils sont en prison toute l'émission.
Ils peuvent pas en sortir, par contre, de la prison. Hein.
Fred est capable de bouffer les rats. Lui, hein.
Alors là, j'imagine certaines personnes qui nous écoutent et qui se disent mais pourquoi ils parlent de Fort Boyard là depuis 5 minutes, qui comprennent pas. Eh bien, en fait, je voulais vous faire réagir à cette info de confrère parisien. France, hein. Voilà, c'est au-dessus du foot, parce que les deux finales de coupe PSG Saint-Etienne et PSG Lyon devraient être programmées les 24 et 31 juillet prochains, à chaque fois des vendredis, pour ne pas perturber la programmation et la diffusion de Fort Boyard, programme historique du samedi soir l'été en France et gros pourvoyeur d'audience pour France 2. Alors, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça montre notre manque de culture sport si un programme de divertissement passe avant une finale nationale? 32-16 pour en débattre. Duga, t'es choqué?
Je m'en fiche. Déjà, un, j'en ai rien à foutre. Deux, j'en ai rien à foutre. Sincèrement, si ça arrange tout le monde, enfin que ça peut.
Quoi qu'il arrive, ça n'arrange pas les supporters.
Ouais, les supporters, c'est-à-dire pourquoi?
Si tu veux faire un stade plus ou moins rempli, avec 5, 20 000 et tout, c'est plus facile de se déplacer un samedi soir qu'un vendredi soir où tu travailles.
Ouais, ok.
Donc ça, c'est quand même embêtant déjà. Les finales nationales, c'est plutôt le samedi soir d'habitude.
Oui. Non, mais je pense sincèrement. Alors après, on est tous d'accord pour dire que la France n'est pas un pays de football et que c'est pas la priorité absolue. Ça, on est tous d'accord. Après, se servir de ça pour dire que c'est une preuve supplémentaire que le football passe au deuxième plan. Sincèrement, ça arrange tout le monde. On sort d'une crise. C'est aussi important pour les télés. J'en sais rien. Après, vu l'image qui a été renvoyée par notre football ces derniers mois et pendant la crise sanitaire, faut pas s'étonner que le football n'est plus devenu une priorité, que les gens ne courent pas après le football. Voilà, au bout d'un moment, il se passe tellement de choses qu'on condamne depuis des années et depuis au moins 4 ans dans le Team du Gaz sur l'image du football, sur l'image des joueurs, sur ce que le football peut renvoyer, sur tout ça, qu'à un moment ou un autre, s'il y a des gens qui se décrochent un petit peu du football, sincèrement, faut pas trop leur en vouloir et c'est comme ça et c'est normal. Au bout d'un moment, je peux le comprendre. Au bout d'un moment, qu'on soit de moins en moins une terre de football, je peux le comprendre.
Jérôme, tu es d'accord?
Non, le constat, oui, sur le constat, du gars a raison. Après, il faut combattre ça et nous, on est là aussi pour ça.
Ah ben, le président Quillot, il avait fait un plan là, je sais plus comment ça s'appelait, le plan qu'il avait fait là.
Non, mais il faut. Moi, je me refuse d'accepter ça. Alors, en effet, oui, ça peut paraître choquant pour les passionnés de football de voir que Fort Boyard passe avant une finale de coupe.
Ça fait combien d'audience pour Fort Boyard?
Vous savez, 4-5 millions, non?
Ouais, oui. C'est inférieur à la finale de Coupe de France, au moins.
Tu crois? Ouais.
Oui, sur une finale de Coupe de France, quand même. En plus, qui plus est, un PSG Saint-Etienne, je pense que les gens vont regarder, quoi.
Le 31 août, Fort Boyard, le 31 août 2019, par exemple, a fait 1 962 000.
Ah oui, non, mais là,
la finale de Coupe de France PSG Rennes a fait 4 millions et demi.
Oui, non, mais c'est sûr. Il n'y a pas photo. Et encore, c'est PSG Rennes.
Voilà. Contre les PSG Les Herbiers, par exemple, la précédente finale, c'était 6,4 millions.
Mais oui, non, en logique. Moi, je me souviens.
Et le PSG Lyon de Jérôme a fait 15 millions à l'époque.
Mais oui, non, mais le PSG Marseille de l'époque avait fait plus de 10 millions.
Oui,
je crois.
Le PSG Marseille, oui.
Mais bon, peu importe. C'est même pas. Bien sûr que l'audience d'un match de foot fait plus. Mais moi, ce qui me dérange, c'est plus sur la Coupe de France. La Coupe de la Ligue, encore, ça ne me dérange pas parce que la Coupe de la Ligue, elle va disparaître. Et de toute façon, il y a plus d'un club qui n'avait pas envie de la jouer. Donc, c'est une finale. Les gens, à mon avis, ne s'identifient pas trop à cette Coupe de la Ligue. Mais la Coupe de France reste quelque chose de particulier ici en France. Et il faut combattre ça. le fait que alors aujourd'hui c'est France Télé qui a les droits, donc ils font ce qu'ils veulent, ça montre qu'à France Télé en effet il y a des priorités, le football n'est pas une priorité, de toute façon ça se voit par rapport aux droits qu'ils ont, ils n'ont pas grand chose sur le foot. Le problème c'est que vu qu'ils ont quand même la finale historique, la finale de la Coupe de France, ils auraient pu faire un effort pour au moins montrer que cette finale
mais s'ils l'avaient fait, ça aurait changé quoi dans l'absolu, c'est ça que je veux te dire Jérôme, sur quel message, il y a pas de message
prouvé que, ça aurait prouvé que par rapport aux audiences, par rapport à plein de choses, que le foot est quand même important et, qu'il y a une place importante. Alors je veux bien que on n'est pas l'Italie, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas l'Angleterre, on n'est pas l'Espagne en termes de culture foot. Mais quand même.
Disons que ces deux matchs, ça représente aussi symboliquement quelque chose. C'est le retour du foot en France après une période sans match.
Oui, mais donc le vendredi ou le samedi, ça change quoi? Mais ça change quoi le vendredi ou le samedi? Moi, tu me parles des supporters, je veux bien l'entendre. Ça fait des mois et des mois que les supporters, ils ont plus le droit d'aller, de se déplacer. On s'est jamais posé la question. Lorsqu'on a fait un débat, Jean-Louis, est-ce qu'il faut repenser la façon de supporter, la façon de soutenir ces équipes?
Voilà, mais du gars, ça devrait être la priorité de France Télé, la finale de la Coupe de France.
Mon Jérôme, ça l'a jamais été. Ça l'a jamais été. Pour les supporters, mais ça fait bien longtemps que les supporters ils passent au second plan, au troisième plan. C'est les droits télé qui comptent, on le sait. Voilà. Au bout d'un moment, il faut pas faire les étonnés. C'est évident que ça allait se passer comme ça.
Alors, sauf que c'est la première fois que ça se passe comme ça.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger sur lesquels on peut s'appuyer, Mohamed?
Oui, on peut s'appuyer sur le premier match qui a eu lieu en Italie il y a quelques jours. C'était un match entre la demi-finale de coupe entre la Juve et le Milan AC. Énorme carton d'audience, 9 millions de spectateurs pour la RAI.
C'était un match. C'était en clair.
Oui, c'était en clair. Ça a été diffusé en clair. On a fait une grosse pub sur ce match et on a vu que tous les supporters étaient heureux de revoir du foot rapidement en clair à la télé et de revoir le premier match de deux des plus grands clubs italiens.
Et pourtant, il y avait Interville à la place qui était prévue et ils l'ont décalé.
Non, mais c'est aussi. C'est pour ça qu'on peut le dire, c'est un symbole sur le fait que le football a moins de place que d'autres divertissements.
Les clubs donnent leur accord, Mohamed ?
Non, ils n'ont rien à dire. C'est le diffuseur qui le demande et qui impose sa date parce que Fort Boyard est diffusé, parce que Fort Boyard est toujours diffusé le samedi la plupart du temps, que exceptionnellement parfois il change.
Mais puis ça a été décalé aussi. Ça devait avoir lieu au mois de mai, donc ça a été décalé. Ils se sont adaptés. Ils ont trouvé un vendredi au lieu d'un samedi.
Il y a une petite faille de la Fédé quand même ou de la Ligue.
C'est sûr.
Un manque de force de ces deux institutions.
Tu m'as devancé. J'allais le dire en fait. Mais c'est ce qu'on a ressenti déjà. Quand le gouvernement.
Mais avec quel argument, Jean-Louis ? Avec quel argument de dire on peut faire le samedi plutôt que le vendredi ? Quel argument ?
Parce que toutes les finales ont été jouées un samedi.
Mais Fort Boyard est tous les samedis aussi.
C'est pour ça qu'on dit ça. C'est que c'est plus pour eux, c'est plus logique de décaler la finale à la Coupe de France que de décaler Fort Boyard. Et moi, je me bats contre ça. Et Noël Le Graët et la Ligue auraient dû se battre encore plus pour trouver un accord avec France Télévisions pour vraiment que le foot ait sa place, une place très importante. Noël Le Graët s'est quand même battu pour avoir ces deux finales là depuis le déconfinement et l'arrêt des championnats. Il n'y a qu'un truc où il s'est battu, c'est les matchs pour l'équipe de France et les deux finales de coupe. Donc au bout d'un moment, il représente bien correctement le football français, sachant qu'il y a eu beaucoup de failles depuis le déconfinement et la décision du gouvernement. Et là, c'était une façon aussi peut-être un petit peu de te rattraper. Et là, ils ont laissé faire encore une fois.
Mais il a ses habitudes, il veut sa petite énigme du Perfora le samedi soir, il la veut pas.
Mais non, il regarde pas.
Ce que je veux te dire, c'est que France 2, il cajole plutôt les fans de l'émission qui est culte plutôt que un match de temps en temps que les supporters de foot ils ont pas de droit donc ils ont un match de temps en temps.
Oui, mais ils pourraient valoriser justement le droit qu'ils ont avec ces coupes nationales.
J'ai une info après le bar à Bordeaux que Duga a acheté avec Zizou je crois qu'ils ont racheté le fort. Donc c'est pour ça qu'il se bat pour le...
Ah oui, pour le maintien.
Avant, TF1 avait changé ses dates. TF1, dans les précédentes années, à l'époque de TF1 qui diffusait du football en clair, TF1 faisait exprès de mettre ses produits de divertissement le vendredi soir pour laisser la place au foot le samedi soir.
C'est vrai.
C'était un événement. Voilà. Et ça aurait dû
être
un événement.
Alors Romain nous rejoint au 32-16. Salut Romain, bienvenue dans
le Gare. À 16h le vendredi, c'était bien aussi.
Salut Romain.
Salut tout le monde, comment vous allez?
Ça va et toi, t'es scandalisé ou pas?
Pardon?
T'es scandalisé ou pas?
Franchement, moi, ça me débecte depuis très longtemps de ne plus avoir des matchs de football le samedi soir sur une chaîne non payante. Aujourd'hui, en fait, on est obligé de payer pour avoir du football. Et Duga, désolé, Mais moi, la Coupe de France, eh ben, ouais, ça m'intéresse parce que je veux voir du football. La Coupe de Ligue, c'est pareil. Et pourquoi ce serait les vendredis, même si on veut aller au stade, comment on fait? On veut aller au stade, eh oui. On a des gamins, on bosse, il faut prendre les journées, il faut prendre des... Non, c'est pas possible.
Ça sera où le match? Ça sera où le match?
Stade de France.
Donc moi, je fais comment? Moi, j'habite à Clermont. Je vais emmener mon petit cousin voir un beau match, une belle finale. Eh ben non, le vendredi, il faut que je prenne une demi-journée de boulot.
Tu fais quoi dans la vie?
Moi, je travaille, j'ai une entreprise de bâtiment.
D'accord.
Donc voilà, j'ai 5 gars, je fais comment? Je peux pas. Mmh. Et voilà, le samedi, ça permet, faut monter à Paris, si ça finit tard. Et si, moi, j'ai pas de club en particulier, à part Clermont Foot, mais parce que je suis Clermontois.
Ah oui.
J'ai pas de club en particulier, mais si ça fait la fête avec des supporters, ça va finir tard. Donc on est obligé de dormir là-haut.
Ah bien sûr, ouais, non, mais c'est le week-end. Voilà.
Là où je vous rejoins, les gars, c'est vrai que la Fédé aurait dû protéger. Non, mais c'est vrai, aurait dû protéger.
J'ai dit qu'à la fin, il serait d'accord avec
nous. Protéger ses supporters. La Fédé, ça représente le foot amateur. Le foot amateur,
exactement.
C'est voilà. Donc au moins faciliter pour que.
Ouais, Romain, merci d'avoir reconnecté Dugas avec la réalité.
Bravo, ouais.
Merci beaucoup.
Merci Romain.
Merci pour vous. Allez.
À bientôt salut, Romain. Merci. Tu reviens quand tu veux. Alors, je signale sur Twitter à Patrick sur le hashtag RMC Live. Dugas n'a pas été engagé par France Télé. C'est pas pour ça déjà qu'il arrête RMC ou qu'il défend Fort Boyard. Voilà, je le précise.
J'adore France Télé. Alors, je vais vous dire sincèrement, en reconversion, je vais faire la boule dans Fort Boyard. Donc voilà. Donc c'est pour ça.
Moi, je te verrai plus en perf. Mais bon.
En perfour.
Ouais, franchement.
En Felindra.
En Felindra, c'est beau. Avec les batailles dans la bouille encore là.
Moi, c'est le perfour, c'est pas le perfour.
Oui, très bien. Merci beaucoup. Dans un instant, Mohamed, la guerre est déclarée entre le Bayern et le PSG.
On peut le dire
comme ça?
On peut le dire.
Voilà. Tu nous détailles ça dans une seconde.
Encore en guerre avec l'Allemagne? Oh putain, c'est pas possible.
Oui, c'est vrai, on fait France-Allemagne à chaque fois des années 80. Allez, à tout de suite.
Oh là là,
RMC, 18h20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, 18h30, Tim Dugas continue avec Jérôme Rotten, avec Mohamed Bouafsi, avec Jean-Louis Tour. Mon Jean-Louis, ça y est, la guerre est déclarée entre le Bayern et le Paris Saint-Germain.
Les infos RMC Sport à venir. Mais juste avant, le programme du journal moyen, Adrien Aigouin nous rejoint.
Salut les amis. Salut, j'ai peut-être l'excuse la plus gonflée d'un joueur qui était en retard à l'entraînement. T'as connu du gars, ça a dû t'arriver peut-être un petit problème à la maison, un problème de voiture, t'es en retard à l'entraînement.
J'aime pas trop être en retard en général, c'est pas la chose que je préfère, mais ça a dû m'arriver, oui, bien sûr.
J'ai le champion du monde de l'excuse quand on arrive en retard à l'entraînement à 18h45.
Jérôme, ça m'étonnerait qu'il arrive en retard.
Non,
il
arrivait vite à l'entraînement, trop vite même, à l'avance.
Je pense pas qu'il arrive souvent en retard.
Non, j'arrivais à l'heure.
Pile,
ouais, j'aimais pas arriver.
Il y avait des joueurs en retard à votre époque, ça arrivait ?
Il y en a toujours eu, mais il y avait des amendes, donc voilà. Mieux pas y arriver.
T'as dû arriver en retard parfois. Vu l'heure à laquelle t'arrives pour les émissions, franchement,
non, mais
on prend pas beaucoup de marge. On est là à l'heure, mais sans marge.
Quand t'es limite, quand t'arrives à l'heure pile, c'est sûr que des fois,
il y a quelques débords.
Surtout en région parisienne, t'es pas à l'abri d'avoir une mauvaise surprise, donc ça peut arriver 3-4 minutes. Mais t'en fais pas, je négocie.
Très bien.
J'avais la porte de secours.
À tout à l'heure, Adrien. Très bien. Alors, les infos RMC Sport. Donc vraiment, la guerre est déclarée entre le PSG et le Bayern, Mohamed ?
En fait, c'est une guerre qui couvait, on va dire, entre les deux clubs, puisque la saison dernière, il y a deux ans, pardon, le Bayern n'avait pas apprécié les approches du PSG sur Bernat et sur Boateng, des approches qui avaient été effectuées par Antero Henrique, le précédent directeur sportif du club. Le départ de Bernat à 5 millions d'euros, il était très mal passé du côté du Bayern, surtout quand on sait qu'après, il a effectué des très belles prestations avec le PSG. On n'a pas du tout.
C'est une belle affaire, lui. À 5 millions d'euros, ce garçon-là, ça, c'est beaucoup.
Et on n'a pas apprécié aussi les attaques et les approches sur Jérôme Boateng, parce que Jérôme Boateng avait été voir le Bayern en leur disant qu'il voulait partir, mais finalement il n'avait pas reçu d'appel d'Antero Henrique. Thomas Tuchel lui avait dit je te veux, et finalement le PSG n'avait pas fait d'offre, donc il y a eu un micmac autour de cette situation et on n'a pas apprécié ce micmac du côté du Bayern. Et donc, il y a eu cette opportunité.
Mais il y a un autre truc aussi dans le passé. Il y a eu aussi souvent des jugements.
Les attaques de Romain Nigueux, du Lyonnais, sur la situation du PSG. Et ça, je peux vous dire que Qatar, ça n'a pas du tout été apprécié. Surtout que quelques mois après ces attaques, l'un des plus gros sponsors du Bayern Munich se nomme l'aéroport de Doha au Qatar, comme par hasard, sur la Manche. Donc ça n'a pas du tout été apprécié. En revanche, il y a eu une opportunité ces dernières semaines. Eh bien, cette opportunité, c'était Tanguy Kouassi. Il a choisi de rejoindre le Bayern Munich en signant libre dans le club allemand. Jusqu'à il y a encore quelques jours, le PSG pensait qu'il allait rester à Paris. Le PSG ne savait pas l'identité du nom de son futur club. Et donc ça, ils n'ont pas du tout apprécié. La direction sportive n'a pas du tout apprécié. Leonardo aussi. Parce qu'il y a des... Allez, il y a des gentleman agreements sur les joueurs jeunes qui partent libres, au moins de prévenir qu'on démarre des discussions, et ça, on n'a pas du tout accepté à Paris. Et là, on se fixe pas de limites. On réfléchit du côté du PSG à attaquer plusieurs joueurs du Bayern, à sonder plusieurs profils. Et d'ailleurs, les discussions ont démarré clairement sur le profil de Lucas Hernandez. Le PSG ne veut pas lâcher 80 millions d'euros. Le Bayern demande 80. Les discussions ont démarré. Mais Paris a envie d'être un peu taquin et coquin et d'attaquer d'autres joueurs du Bayern s'il le faut.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en représailles? Aller draguer des joueurs sans passer par le club?
Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Il y a quelques années, ça avait fait très peur au Barça. Le Barça avait eu très très peur de Nasser Al Khelaifi après une déclaration où Nasser Al Khelaifi avait dit s'il m'attaque sur Marquinhos ou Verratti, j'irai sur d'autres joueurs. Quelques jours après, le Barça a rompu les négociations avec les joueurs du PSG. Là, on est dans la même situation. Il y a des joueurs qui peuvent intéresser le PSG dans l'effectif du Bayern Munich, et le PSG a quand même quelques atouts, notamment financiers, qui peuvent intéresser certains joueurs du Bayern. Et la vie aussi, parce que vivre à Munich ou vivre à Paris, c'est pas du tout la même chose.
Duga, tu penses que dans une bataille comme ça, sans parler de guerre vraiment, le PSG peut faire peur au Bayern ?
Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est possible, mais ça va se régler. Ça a toujours existé. Il y a des conflits toujours... pour des joueurs désirés ou pas. Voilà, ça fait partie de la vie de la vie du football. Après... il y a toujours intérêt quand même à ce que ça se passe bien. Là, tu vas te retrouver à surpayer dans des conflits comme ça. Tu vas te retrouver à surpayer des joueurs qui le mériteraient peut-être pas. Tu vas avoir des joueurs qui vont être déstabilisés. Tu rentres dans une espèce de jeu qui est pas très sain, qui est pas très agréable. Après, moi, ce qui me choque le plus dans tout ce qui s'est passé entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, c'est plus les déclarations du Bayern. Quand le Paris Saint-Germain est arrivé, ça a été même le cas aussi face à City. Voilà, ces nouveaux riches qui sont arrivés dans le football avec ces propriétaires qui sont des États. Ça a posé, il y a eu des déclarations très très dures de la part du Bayern et de ses dirigeants. Ça m'a beaucoup plus choqué que le fait que tu puisses t'intéresser à un joueur, qu'il fallait pas, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne période. Bon, ça toujours existé, c'est la vie du football. C'est la faute, à mon avis, ce genre de choses, plus à la FIFA ou à l'UEFA, qui doivent encadrer ce genre de choses-là. Ils ont essayé de le faire, mais bon, ils ferment souvent les yeux et se bouchent les oreilles pour pas entendre ce qui se passe à chaque fois en coulisses. On le sait, on le voit, la FIFA et l'UEFA, s'ils avaient voulu s'emparer, par exemple, des problèmes d'agents aussi, ils ont essayé de le faire. Ils ont vite compris que c'était pas possible, ils ont laissé tomber, ils ont tout dérégulé. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est les instances qui doivent gérer ce genre de choses-là et empêcher que des coups bas puissent arriver. À partir du moment où ça n'intéresse pas l'UEFA et la FIFA, écoute, chacun fait ce qu'il veut, c'est la jungle. C'est malheureusement le football d'aujourd'hui.
Jérôme, t'as poussé un coup de gueule hier soir dans l'after sur le dossier Kouassi.
Ouais.
Du coup, tu comprendrais que le PSG réponde ?
Oui, bon après c'est bonne guerre, hein, comme on dit, ça fait partie de l'histoire des grands clubs. Le PSG veut pas se faire. Alors bon, ils se sont fait avoir. Moi, pour moi, c'est pas par rapport au Bayern, mais c'est plus par rapport à la réaction de Kouassi, de son entourage.
Oui, pour toi, il voulait surtout quitter le PSG.
Oui. Et après. Oui, puis la décision, même si on l'a appris là, mais la décision. Par rapport à ce que j'ai aussi entendu, elle date pas d'il y a 15 jours, quoi. Donc, la
justification sur le fait que ce soit un manque de stabilité au PSG,
non, elle est ridicule. Cette justification.
De toute façon, j'en ai parlé hier. Je vais pas m'énerver une deuxième fois parce que j'ai assez transpiré. Mais elle est ridicule. Après, peu importe.
Mais quelle est la vraie raison alors? Il voulait juste pas signer au PSG.
La vraie raison, c'est toujours pareil. C'est pour moi, c'est comment un jeune joueur qui est formé dans un club à qui on lui a donné beaucoup de choses, qui a eu une année remarquable l'année dernière, sans contrat professionnel, jouer autant de matchs dans l'effectif du Paris Saint-Germain, ce que représente le PSG aujourd'hui en France, ce que représente le PSG aujourd'hui en Europe, c'est quand même un grand club. Et ça se respecte. Et quand le gamin, il est capable de dire non pour X raisons, peu importe, mais de partir dans un club comme le Bayern, où là, on peut pas parler de temps de jeu, on peut pas parler... ces deux grands clubs en Europe. Alors oui, le Bayern est une institution depuis des années, le PSG est plus récent, c'est plus récent qui sont installés comme ça à la tête de certaines équipes, du moins à la tête de l'Europe, mais c'est un club qui se respecte, et je comprends pas encore comment un jeune joueur comme ça, il peut pas aimer ce club, être redevable de ce club par rapport à ce qu'il lui a amené, c'est tout. Et le retour, ben il y en a pas en fait. Et c'est Kouassi, c'est d'autres joueurs aussi, hein. Il y en a d'autres qui vont partir. Je ça me dérange, mais c'est le Paris Saint-Germain, c'est Marseille aussi qui a subi ça dernièrement. C'est arrêté. Là, moi, je peux pas entendre que les nouveaux agents, c'est pas la même mentalité. Le football a changé chez les jeunes. Non, moi, jamais j'accepterai ce football-là parce que c'est pas le football que j'aime. Moi, j'ai envie que les joueurs reviennent à des bases plus saines. Alors oui, il y a plus d'argent, ok, mais l'argent, il en gagnera peut-être. Et je lui souhaite beaucoup plus prochainement quand il aura fait un peu plus de preuves, mais avant tout, garder le rêve. Quand vous étiez gamin, les gars, on rêvait d'être footballeur professionnel à n'importe quel niveau. Et ça, il faut pas l'oublier. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération et les gens qui les entourent, parce qu'ils sont pas seuls, ils ont oublié un petit peu ça.
Et d'ailleurs, l'autre exemple aujourd'hui, tu as cité Marseille, il y a Lyon aussi, hein, qui est
Lyon, c'est pareil.
Avec Pierre Kaloulou, ouais, qui va s'engager avec Milan.
Après, c'est un dossier un peu plus compliqué, Kaloulou, parce qu'il y a ses frères qui étaient au club, qui n'ont pas réussi, ils gardent des mauvais souvenirs du club. Et encore, ça, c'est un autre dossier. Mais clairement, sur Kouassi, ça a bien fait rire le PSG. Les arguments de stabilité, quand on sait que le Bayern a eu plus d'entraîneurs sur les 10 dernières années que le PSG, ça, c'est bien, bien drôle. Quand on sait qu'il y a 6 joueurs à 7 joueurs qui sont devant lui, dont des internationaux champions du monde, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, ça aussi, ça fait vraiment rire, et il aurait dû assumer, et en tout cas c'est ce qu'on dit au PSG, Kouassi aurait dû assumer juste un truc, qu'il ne voulait pas signer au PSG, oui, qu'il est parti pour d'autres raisons, et c'est la vie.
Mais oui, il peut avoir ses raisons de ne pas vouloir signer au PSG.
J'espère,
tu n'es pas d'accord avec ça, Jérôme, mais il peut les avoir, et au moins
non, mais il a des raisons, mais j'espère juste qu'à travers ces cas-là, parce que ça se répète quand même en France, qu'à un moment on mette un règlement en place, des lois en place. Nous, on l'a connu avec Dugas, hein, parce que Dugas ne saura peut-être pas, parce que c'est plus âgé que moi, il est plus âgé que moi. Mais c'est quand tu faisais 15 matchs l'année, ta dernière année de stagiaire, oui, ou aspirant, ou là, c'est espoir maintenant, tu étais obligé de signer.
Oui, pour vous, la question ne se posait même pas.
Mais tu ne te poses pas. Et puis, ton rêve, le rêve d'un joueur, c'est quand il est formé encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain, mais toutes les autres clubs, c'est pareil. Le rêve, c'est de jouer en équipe première, d'être professionnel, d'avoir des étoiles.
Kouassi, il est arrivé à quel âge au Paris Saint-Germain? C'est impressionnant, en plus, le gamin.
Il est arrivé tout jeune, il est arrivé à 13 ans. Il est, c'est vrai.
Normalement, la logique, son rêve absolu, c'est de jouer au Paris Saint-Germain.
Oui,
c'est
comme toi, au Bordeaux, quoi.
Ils ont perdu ça. C'est ça qui est ahurissant et qui est inquiétant. Tu veux jouer pour ton club de cœur qui t'a fait vibrer. Enfin, c'est non, il y a plus du tout ça. C'est vraiment devenu que du business.
Et c'est pour ça que moi, pour finir là-dessus sur ce dossier, Jean-Louis et Luga, c'est et Momo, il faut que les clubs travaillent différemment. Il faut dans les clubs remettre des gens qui ont ces valeurs-là et qui peuvent amener ça à des jeunes. Parce que c'est à l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans que tu arrives à leur mettre dans la
vie. Cette passion,
bien sûr. Et c'est trop délaissé. Et encore au PSG, j'ai plein d'exemples.
Ils l'ont fait avec Louis à un moment, et Louis n'a pas réussi non plus à convaincre les jeunes.
Mais Louis, il était tout seul. Il faut peut-être encadrer, mettre plusieurs.
Mais Louis, c'est un problème. C'est pas un problème lié au PSG. Il y a eu Coman, il y a eu Zagadou, il y a eu des joueurs comme Ferland Mendy. Tous ces joueurs ont fait leur formation. Kouassi, il est né au PSG. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, il faut aider les clubs français. Le contrat que vous avez connu, messieurs, quand vous étiez plus jeune, il n'existe plus.
Non,
en fait, aujourd'hui, Dugas, on passe de stagiaire à stagiaire pro et on doit soumettre des contrats. Et les gamins, les Manchester United a piqué un joueur il n'y a pas si longtemps que ça au PSG. Le joueur est parti du PSG, il a signé à Sarcelles pendant 6 mois alors que son contrat était fait à Manchester United, et il est parti à Manchester United. Et ça, c'est inadmissible. Ouais. Et le PSG est aussi victime de cela. Il faut aider les clubs et il faut arrêter que ces contrats pro de 3 ans où des gamins sont reconnus par les grands clubs à 16-17 ans, on leur propose des primes à signature dingue et ils vont dans les autres clubs.
Dugas.
Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces jeunes joueurs qui ont fait toute leur préformation dans leur club n'ont plus envie ou n'ont pas envie, et pourquoi ça ne leur fait plus rêver, soit à Bordeaux, soit à Marseille, soit à Paris, soit partout. Comment ça se fait qu'ils n'ont plus cette lumière dans les yeux de pouvoir défendre les couleurs de leur club, de les porter haut avec les supporters, avec ce qu'ils ont vécu, avec leur famille dans les tribunes, avec leurs amis dans les tribunes? C'est normalement, putain, comment ça a pu disparaître?
Il y a l'argent et il y a le confort. Et moi, je suis désolé, et encore, je te dis, je prends des exemples précis parce que j'ai j'ai plein d'amis qui ont des jeunes qui veulent rentrer en préformation au Paris Saint-Germain et qui jouent au Paris Saint-Germain. Mais les jeunes, ils sont dans le confort. On leur donne déjà beaucoup trop à 11, 12, 13, 14 ans. Arrêtez.
Alors évidemment, notre antenne est ouverte à ces jeunes, aux conseillers de ces jeunes, aux membres de la famille de ces jeunes, pour qu'ils viennent nous expliquer les raisons. On est prêt aussi à les entendre si elles sont valables et si elles tiennent la route. Mais évidemment, on leur donne la parole.
T'as un chèque pour les faire venir?
Oui, mais bon. Faut pas les payer quand même. C'est pas des champions du monde 98.
Non. Bah écoute, je pense qu'ils ont une bonne exemple en fait.
Bon, merci Mohamed.
Merci
pour
messieurs.
Ces infos.
Merci Mohamed. Merci
Julien.
Merci
dans une Jean. Seconde avec donc le journal moyen et cette excuse de retard à l'entraînement. À tout de suite.
RMC 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, 18h48 les amis, Tim Dugas continue avec Jérôme Rotten, avec Jean-Louis Tour. À partir de 19h, nous allons revenir sur notre France-Allemagne.
Oui, exactement. On va faire France-Allemagne 86, la deuxième demi-finale de Coupe du Monde perdue par la France. Et on va conclure France-Allemagne 82 quand même, parce que Polo nous a appelé hier à 20h en disant « J'ai encore plein de choses à dire, vous m'avez censuré, etc. » Non, je plaisante. En tout cas, il a plein de choses à dire, Polo. Il sera avec nous tout à l'heure à 19h. Tout de suite, journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Dugas, aujourd'hui sur RMC, le Bayern fait la fête, c'est normal. Quelle est la meilleure excuse quand on arrive en retard à l'entraînement? Là, c'est j'ai un champion du monde dans le journal moyen. Et puis, un magnifique question pour aujourd'hui. Jean-Louis, tu vas te régaler, 4 questions.
D'accord.
Année 90, okay. Je sais pas, peut-être un peu trop jeune, Jean-Louis. On va vérifier tes connaissances. Vous écoutez RMC, c'est le 339e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport,
c'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
Alors, vous, les professionnels, Jérôme et Dugas, vous allez pouvoir peut-être me répondre. Le Bayern Munich est champion d'Allemagne. 30e titre de champion pour ce club mythique du foot européen. Le club publie une vidéo sur Instagram de la joie des joueurs dans le vestiaire qui célèbre ce titre. Et ben c'est partout en Europe. Alors on est en Allemagne. Moi je me dis, ils vont chanter « On est champion » en allemand.
Oui,
pourquoi ils chantent ça tout le temps ? Campeone ! Pourquoi ? C'est le cas dans tous les clubs du monde, en Angleterre, en France, même ça arrive. Pourquoi Campeone? Ça se donne un petit côté latin, je sais pas, c'est curieux.
J'en ai aucune idée.
Ouais. C'est à la mode en ce moment.
Je sais pas comment tu dis champion en allemand.
Campion. J'ai regardé, j'ai vérifié.
Campion.
Je sais pas.
C'est plus musical, non?
Si vous avez la réponse, vous êtes fan de foot,
c'est
vous savez.
Plus militaire, quoi, tu vois, c'est dur, c'est à l'image des Allemands.
Campeone. Allez, sans transition, direction.
C'est une belle langue,
Ouais.
Jean-Louis, nous sommes au Chili.
Ah oui, bien sûr.
Magnifique histoire donc au Chili. Vous avez tous des coéquipiers qui ont inventé des excuses après un retard à l'entraînement, avant un match. Je tiens peut-être la meilleure excuse de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Guillermo Marino. Il jouait en 2011-2012 à l'Universidad de Chile.
Dingue,
j'ai pris des cours. C'est son ancien coéquipier Gustavo Lorenzetti, un Argentin, qui raconte ça sur sa chaîne YouTube. Marino arrive en retard à l'entraînement et il dit au coach, à ses coéquipiers, il raconte. Donc, il a commencé à expliquer qu'il s'était soudainement perdu et qu'il avait été...
Non.
Non mais sérieux, non, c'est très sérieux. Enlevé par des extraterrestres. Il a dit qu'on lui avait pris son âme, qu'elle avait été analysée et qu'il s'était occupé de lui pendant tout le voyage. Il a raconté quelque chose comme ça. Se souvient son coéquipier Lorenzetti qui poursuit. Il dit honnêtement, moi-même, je crois aux extraterrestres. Il a donné une excellente explication et nous devions le croire. Donc c'est sur son excuse. Il arrivait à l'entraînement en retard. Il dit j'ai été enlevé par des extraterrestres. Il dit j'y ai cru par la façon dont il nous l'a raconté. Si vous le connaissez, vous savez que c'est une personne sérieuse. Il n'est pas du genre à être en retard quelque part. Il est très respectueux. Nous l'avons cru.
Bah de toute façon, dans ces cas-là, il faut être convaincant. Peu importe.
Non mais est-ce que, je sais pas, déjà, il faut croire aux extraterrestres.
Après, les plus gros mensonges, c'est ceux qui passent le mieux, donc, envoyer la sauce.
C'est dingue comme histoire, ça fait parler là-bas, c'est curieux.
Ça me fait le même effet quand Jérôme parle de sa carrière, moi. Il le fait avec tellement de conviction.
Tu finis par y croire.
Ouais, mais sauf que là, je peux pas inventer parce qu'il y a des traces.
Oui.
Non, bien sûr.
Là, et extraterrestre.
Oui, c'est compliqué.
Et voilà, son entraîneur. Alors, l'histoire ne dit pas. Il a pas raconté la réaction de Sampaoli, entraîneur de.
Le match après. Pendant combien de temps il a pas rejoué le mec, par contre.
Voilà, il a pas raconté. Il y a peut-être une amende spéciale extraterrestre.
Vous avez pas une histoire de retard à raconter, non?
Ben Jérôme, t'avais une technique toi quand t'étais en retard, non?
Ah oui, non, mais bon, on a tous eu. C'était 3-4 minutes, donc tu rentres. Moi, au camp des loges, j'avais le j'avais la porte du chez le docteur. Donc s'il me cherchait, je disais mais non, mais je suis allé voir le docteur.
Parce un soir.
Que j'ai un petit problème là, j'ai mal à.
Mais ça va aller, je vais m'entraîner.
Ouais. Pas contaminer les. Voilà.
Et on n'allait pas demander au docteur. Hein non, personne n'allait vérifier
avec le docteur. Ça finissait avec un maillot de temps en temps.
Quelques places.
Avec une victoire. Moi, il savait très bien qu'il fallait que je sois bien pour qu'on gagne parce qu'on prenait les primes de match. Donc voilà, je le récompensais en fin de semaine.
Sans transition. Question pour Jean-Louis, à toi. Alors là, que se passait-il il y a 26 ans? Il y a pile 26 ans, moment important pour le
26,
foot.
26, Coupe du Monde 94.
Le 17 juin 1994, ouverture de la Coupe du Monde de foot aux États-Unis. La première et la seule aux States. Question pour spéciale Coupe du Monde 94. Dugas, tu aurais pu la jouer si tu avais été en équipe de France tout minot. Tu aurais pu, non? Ça aurait pu.
C'est Gérard Rouillet.
La France était qualifiée déjà.
Question pour exceptionnelle, c'est la Coupe du Monde. Un week-end à gagner à Bordeaux chez Christophe Dugarry pour celui qui gagne. Pour Christophe, sera un magnifique cadeau. Hein, tu seras au chez toi. Qui marque le premier but sur cette Coupe du Monde?
Mila?
Non.
Bon Mario.
Souvenez-vous, à l'époque,
Bebeto.
C'est le champion.
Non, c'est le champion du monde, c'est l'Allemagne
qui ouvrait. Ouais. 1-0 face à la Bolivie. C'est pas le match qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Hein.
C'est l'Allemagne.
Klinsmann.
Rossi. Jürgen Klinsmann. Tu te rapproches du week-end chez Christophe Dugarry, Jérôme. Attention.
Moi,
alors attention là.
On va se régaler.
T'avais quel âge, Jean-Louis?
Moi, j'avais 7 ans.
Donc tu regardes un peu la télé?
Ouais, pas trop, j'avais pas la télé.
Sur la télévision française, quel duo de commentateurs commente la finale Brésil-Italie?
Roustan Cantona.
Eh ben Roustan-Cantona, Didier Roustan-Cantona, un duo assez inédit, un duo qui était très bon, un peu dans l'originalité, ils étaient assez libres. Si vous vous souvenez pas, on écoute, c'était Italie-Espagne, le quart de finale, 2-1 pour l'Italie, le but de la victoire de Roberto Baggio.
Baggio, le jeu bizarre, il n'a qu'à hésiter, Baggio, oh, il en pousse trop son ballon, mais il y est, but de Roberto Baggio.
Écoutez le gardien.
Zubizarreta lui aussi a hésité à sortir, Zubizarreta a tardé à sortir, il aurait dû le sentir, il a arrêté là.
Oui, il disait les choses tantôt, il n'avait pas peur.
Un but magnifique.
Roustan Canto, France 2 avait la plupart des matchs à l'époque, il y avait quelques matchs sur TF1. Ils étaient assez libres, ils déconnaient, c'était pas mal. Moi j'ai un bon souvenir de ce duo. Alors attention, question plus compliquée. Une fois la finale gagnée sur la pelouse, le Brésilien Dunga soulève la coupe, mais après il déploie une banderole. Qu'est-ce qui était écrit sur cette banderole? Jean-Louis, non, Jean-Louis pas, Google, c'est en rapport avec une
Roten remplace Dugas.
Non. Et je vais vous la lire.
Où est Dugarry ?
Ça va vous rappeler un souvenir. Ça a ému tout le peuple brésilien et tous les amoureux de sport au monde. Sénat.
Merci Gérard Rouillet.
Sénat. Nous accélérons ensemble. Le quatrième est à nous. Hommage à Sénat qui est mort le 1er mai. Le pilote de Formule 1 qui visait un quatrième titre de champion du monde de Formule 1. Et puis enfin, facile pour terminer, c'est de la rapidité. Qui est élu meilleur joueur de la compétition?
Romario.
Romario, bien joué. Jean-Louis Tour, tu as gagné ton week-end chez Christophe Dugarry à Bordeaux.
Parfait. Voilà. Bravo,
tu accueilles Jean-Louis Dugas? C'est bon chez toi?
Avec plaisir.
Est-ce que tu as une petite chambre?
Il va falloir que j'en plus de frigo par contre.
Non, je suis au régime.
Tu peux faire des écarts dans un régime. Tu peux faire un écart.
Moi, je suis un militaire.
Mais pourquoi ça se voit pas, toi, quand t'es au régime? Ça fait 3 semaines que tu
es. Non, ça se voit. Ça se voit sur le torse.
Ah, merci.
Là, t'as perdu le torse.
Ça se voit, c'est évident.
Il a toujours des seins.
C'est sûr. Ah, c'est des pecs.
Non,
c'est des pectoraux. Ça se voit pas bien.
Peut-être qu'un jour, ça sera des pecs.
Mais là, pour l'instant,
c'est des pectignos. Des pectignos.
Merci, Adrien. À demain pour le journal moyen. Merci, Jérôme.
Merci, Jérôme. Salut, Adrien. Salut,
dans un instant, on reprend les mêmes qu'hier. Daniel Riolo, coach Courbis, Paulo Breitner. On conclut sur France-Allemagne 82.
Ah, mais il n'a pas fait exprès. Il vous l'a dit, non?
Non, mais c'est. Moi, c'est surtout Batiston qui a fait faute. C'est ça que j'ai
retenu. Oui, non, mais il n'a pas fait exprès, le pauvre. Non,
imagine Batiston, ce qu'il fait.
Bah ouais, tout le monde est tombé. Tout le monde est tombé sur Schumacher,
le pauvre. Il a un bleu à la fin, tu sais.
Ouais.
Il va m'abuser. Ouais. Allez, merci Jérôme. Dans un instant, donc, les France-Allemagne des années 80, tout de suite.
RMC, 18h-20h, Tim Dugas.